Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour, Rafi Amal.
Avec nous pour cette nouvelle émission, Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous l'aurez compris, on va parler emploi, syndicalisme et dialogue social à Marseille, dans le département et même au-delà. Mais auparavant, Olivier Matteux, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Rafi Amal, un grand professionnel de la radio, a su garder son calme, mais il ne vous a pas tout dit. Juste avant que l'émission ne commence, Olivier Matteux s'est brusquement précipité sur l'animateur à la voix de velours pour lui arracher sa chemise.
Oui.
En conviant le leader de la CGT des Bouches-du-Rhône, nous savions que nous prenions un risque, mais cela se confirme en direct. Nous sommes pris en otage. Notre invité menace maintenant de nous séquestrer dans ce studio tant que Radio Grenouille n'appliquera pas la convention collective. Et il semble déterminé à faire durer le conflit. La preuve, il installe devant nous un brasero pour faire griller des merguez. Je plaisante, bien entendu. Cela dit, Olivier Matteux, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, n'a pas hésité à qualifier la CGT de terroriste. Et un journaliste du Monde a affirmé que c'est une révolution de palais qui vous a porté à la tête de l'Union départementale avec l'appui d'un groupuscule orthodoxe. Son analyse, partisan d'une ligne radicale, vous seriez proche de militants d'extrême gauche. Rafi Amal, qui reboutonne sa chemise, en frémit. Mais prenons un instant pour vraiment vous présenter. Ceux qui défilent dans les manifs ont pu vous apercevoir en tête de cortège. Les militants cégétistes du département connaissent et apprécient la fermeté de vos interventions lors des mouvements sociaux. Le grand public, lui, connaît mieux les moustaches de Philippe Martinez que votre parcours. Vous avez 42 ans et êtes né à Port-de-Mou. Et vous aviez 22 ans lors de votre première adhésion à la CGT, il y a tout juste 20 années donc. Votre métier, c'est forestier-sapeur, les hommes employés par le département pour entretenir et surveiller les massifs forestiers afin de prévenir les incendies. C'est donc un militant aguerri que le 56e congrès de l'UD13-CGT a désigné secrétaire général en février 2016, pour les trois prochaines années. Et même si désormais des réunions confédérales statutaires vous conduisent parfois à monter à Paris, les Bouches-du-Rhône restent toujours le terrain exclusif de votre engagement. Et vu le programme social concocté par les candidats à la présidentielle, vous n'allez pas chômer.
Olivier Matteux, une réaction à ce portrait à la sauce Ravi, bien entendu.
On a attaqué fort, mais bon, le coup du brasero, c'est pas trop mal, c'est la preuve quoi. Pour des jusqu'au boutistes, on n'est pas prêt à aller forcément jusqu'à la grève de la faim.
Alors, ça ne vous a pas échappé, on est en pleine primaire des Républicains. Il y a une batterie de mesures prises, ou qui seront prises en tout cas, qui sont proposées par les deux candidats. Votre réaction tout d'abord sur ces deux candidats, un libéral et un autoritaire, pour vous, ça, c'est pareil de toute façon, quoi qu'il en dise, c'est des acouphènes?
Bon, moi, je crois surtout que ces gens-là participent à brouiller tous les repères. Ils font comme s'ils avaient rien à voir dans la situation actuelle. Ça fait 30 ans que les politiques qui se mènent sont en parfaite harmonie de quinquennat en quinquennat. Se présenter aujourd'hui comme des hommes neufs, alors ça ne pourra pas marcher pour les deux. Hein. Ils ont été Premier ministre chacun leur tour, avec des bilans plus que catastrophiques hein, à tous les points de vue. Enfin, ce dont on est certain, nous, c'est que les travailleurs, le peuple, on va dire, n'a pas grand intérêt dans les discours portés par ces individus.
Alors, tous les deux sont d'accord sur un fait, il faut supprimer du fonctionnaire. Un propose 500 000, l'autre 250 000. Pour vous, le fonctionnaire, c'est ce qui sclérose, c'est le problème principal de cette société d'aujourd'hui?
Pareil, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on nous dit depuis des décennies. Ça masque mal l'objectif hein, de casser en réalité l'ensemble des services publics et de la fonction publique pour laisser la place aux entreprises privées et particulièrement aux grands groupes, j'allais dire amis de ces individus, mais pas que de ces individus, mais c'est au-delà d'amis. Je pense qu'il y a un vrai lien de subordination qui les lie. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils soient plus clairs quoi, sur leur intention. Si leur objectif en s'en prenant au nombre de fonctionnaires, c'était réellement d'améliorer le service rendu aux populations depuis le temps qu'ils ont supprimé les fonctionnaires. Ça, on aurait constaté quelques améliorations. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Mmh. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'entretien des villes, des routes. C'est pas avec moins de fonctionnaires que ça marche mieux.
Michel? Alors, 500 000, hein, c'est le chiffre Fillon. C'est énorme quoi, sur un quinquennat.
Oui, mais s'il y avait eu trois champions au soir du premier tour, on aurait eu certainement un à 750 000. Après, c'est les tiers de Rému, ça.
Alors, on a vu les fonctionnaires, mais c'est pas la seule mesure. Il y en a d'autres. Les 48 heures, par exemple, la suppression des 35 heures, est passé à 48 heures le temps de travail, avec en disant que les 35 heures, finalement, ça avait désorganisé certains secteurs et ça avait même, selon Fillon, créé du chômage. C'est une réalité ?
Oui, non seulement c'est pas la réalité, mais si on avait été au bout des 35 heures réellement, parce qu'il n'y a plus grand monde, notamment dans le privé, qui est réellement à 35 heures, on aurait pu avoir un bilan très plus précis que ce qu'on a aujourd'hui, même si tous les indicateurs montrent qu'à l'époque, il y a eu des emplois qui ont été créés, et des emplois bénéficiant d'emplois publics, mais sans aucune mesure avec ce qui a pu être fait, notamment ces dernières années, avec le CICE, le pacte de compétitivité, où les quelques emplois qui ont été créés ont coûté des millions d'euros. Quoi.
Mmh. Alors, on ne va pas faire toute l'émission sur Fillon, mais quand même, trois jours avant le deuxième tour de sa primaire, il interpelle la CGT. C'est un titre, c'était le point.fr. Fillon attend la CGT de pied ferme, hein, c'est le titre. Et donc, ce candidat LR a dit « la CGT n'a jamais bloqué la France », enfin, remettant en cause finalement la capacité de mobilisation de la CGT et utilisant un petit peu votre image, l'image, la représentation qui se fait de votre syndicat pour mobiliser ses électeurs. Vous réagissez comment ?
Ben, je trouve que ce garçon, à son âge, il manque de constance. Le discours de la classe politique réactionnaire, dans laquelle on va intégrer le Parti Socialiste, au moins c'est dit.
On va y venir.
au moins c'est dit. nous explique depuis très longtemps que c'est en grande partie dû à la capacité de blocage des syndicats et particulièrement de la CGT au niveau de toutes les réformes qui nous auraient été proposées. C'est à cause de tout ça que ça marche pas. Et aujourd'hui, parce qu'il veut se montrer un champion du capital, la CGT n'aurait plus la moindre capacité d'action ni de blocage. Donc il faut savoir quoi. Ou c'est à cause de nous, parce qu'on bloque tout, qu'il faut tout réformer, ou pas. Mais en plus, s'il a besoin de montrer ses muscles dans un débat politique, c'est que peut-être ses arguments, il manque un peu d'assises.
Je le recite, hein, c'est vraiment une charge. Il dit « les syndicats sont faibles par eux-mêmes, ils sont faibles par leur comportement, ils sont faibles par le fait qu'ils ont peu d'adhérents, par le fait que les Français ne sont pas séduits, ils ne sont pas convaincus. Enfin, » C'est toujours Fillon.
C'est vrai. C'est vrai que de ce point de vue-là, on a des leçons à recevoir de la classe politique. Avec pratiquement 50% d'abstentionnistes dans toutes les élections, un électorat complètement éclaté, désorienté, des discours qui se chevauchent de la frange la plus libérale jusqu'à la plus radicale, hein, toujours dans le libéralisme. Les gens n'y comprennent plus rien et pour beaucoup, c'est aussi des intérêts. Mais c'est vrai que ces gens-là, en termes d'implication du peuple, ils savent y faire. On a compris leur intention. Ils commencent par s'appeler les Républicains, bientôt d'autres s'appelleront les Démocrates et on fera comme aux États-Unis avec près de 60% d'abstention. Certainement qu'ils entendent gérer entre eux en se passant le relais d'élection en élection.
Olivier Matteux, vous évoquez l'abstention au moment des élections, la désaffection pour la politique, etc. Mais est-ce que les syndicats mobilisent encore ? On a vu, il y a eu de grands problèmes, il y a eu de petites mobilisations nuancées ce quinquennat.
Non, mais je pense qu'il y a la question des mobilisations, la question de la syndicalisation.
Celui de la mobilisation déjà, on verra celui de la syndicalisation.
Moi, je ne trouve pas que dans la dernière période, il y ait eu de si petites mobilisations que ça. À un moment donné, il faut aussi que l'expression du mouvement social, au-delà des manifestations, le soit aussi entendue par ceux qui ont en charge de prendre les décisions politiques. Et de ce point de vue, on a clairement été, pas trahi, mais... il y a une forme de trahison pour ceux qui auraient pu croire qu'il y avait dans ce pays une majorité de gauche... aux manettes, mais forcément, les décisions, elles se prennent ensuite au niveau politique. Mais après, il faut voir les conditions aussi qu'on crée dans les entreprises pour empêcher que les salariés se déclarent grévistes, puissent sortir de la boîte, venir à la manif. Voilà, mais c'est pas, je suis pas en train de pleurnicher, hein, on sait dans quelles conditions on évolue, mais on a, nous, là, dans la période, on n'arrête pas. Le mardi, on était au tribunal pour une jeune docker arrêtée pendant... Un jeune du syndicat des dockers de Fos qui a été arrêté avec quatre pétards dans la poche à une des manifs du printemps. Où, bon, apparemment, ça doit être un descendant de Jacques Mérine, puisque
il ne le lâche pas. Olivier Matteux, vous êtes aujourd'hui, quand on voit le bilan encore une fois, vous êtes plutôt dans la réaction que dans l'action. Vous réagissez toujours. Vous n'agissez plus, vous n'êtes plus sur le rapport de force, il n'est plus en votre faveur.
Bon, ça déjà c'est vous qui le dites. Je pense que quand on a 70% de l'opinion qui du premier jour de l'annonce du projet de loi El Khomri jusqu'à encore aujourd'hui, il se prononce contre cette loi, il s'agit pas de dire que tout revient à la CGT, mais qu'on le veuille ou non, en termes de débat d'idées, le gouvernement, la droite et le patronat sont en échec. C'est eux qui sont en échec. Ils viennent d'imposer aux salariés français une mesure dont l'immense majorité ne veut pas et ne veut toujours pas. Après, il faut regarder aussi le niveau de répression qui a été mis en place, hein, tant dans les manifestations que dans les entreprises. Je vous dis, on était mardi pour le jeune docker, mercredi on était à Vitrolles pour assister un camarade à convoquer un entretien préalable, le secrétaire général du syndicat CGT. Et la semaine prochaine, on accompagnera notre camarade... secrétaire général du syndicat d'EDF Marseille, qui est convoqué au commissariat, là aussi pour des faits qui remontent à la loi travail. On a le cas d'Air France, on a le cas des Goodyear. Il y a un peu plus de 700 cars recensés dans le pays.
Michel, la question peut-être qui se pose justement dans le moment politique, qui est celui d'un début de campagne présidentielle avec des législatives derrière, que peut le syndicalisme, justement dans ce moment très politique, pour se faire entendre, et sur ce dossier précis dont on parle, c'est-à-dire la loi El Khomri, c'est-à-dire qui a été adoptée. Alors vous menez une bataille maintenant vis-à-vis des décrets d'application de cette loi, mais comment faire entendre la voix du syndicalisme dans un moment où le politique, et puis avec l'hostilité dont on vient de parler, a le dessus finalement?
Non, mais je crois qu'il faut aussi qu'on profite des espaces qui s'ouvrent en termes de débat pour continuer à alimenter les réflexions, alimenter les consciences. Très clairement, hein, encore une fois, il ne s'agit pas de pleurer, puis en plus je suis là invité par les médias, mais on va dire que les moyens médiatiques sont concentrés dans les mains de quelques-uns et qu'effectivement ils ne font pas forcément plus de place que ça au contenu progressiste, en tout cas à ceux qui pourraient proposer une alternative autre que celle de la voie de l'austérité, du libéralisme. Donc partant de là, bon, malgré tout, il y a ce débat politique qui s'ouvre et qui nous permet, enfin, en tout cas nous on compte l'utiliser pour amener des propositions, créer de la réflexion chez les salariés autour de mesures concrètes, les 32 heures, réfléchir sur...
Qui va porter vos propositions?
Mais nous. Nous, et puis
il n'y a pas un leader politique qui va le porter ou un parti politique?
Moi,
bon,
je
va
vois
le
à peu près la question quoi. Vers où vous voulez me mener, mais en tout cas, nous, les contenus que nous portons, ils sont à la disposition de tous ceux qui souhaitent s'en servir. Partant de là, si il y a dans le camp progressiste un candidat qui souhaite non pas calquer à la virgule près les contenus portés par la CGT, on n'entend pas, on n'a pas la prétention nous de porter tout seul les solutions pour changer cette société, mais en tout cas on souhaite fortement y contribuer. Maintenant, s'il se dégage une candidature au-delà de la gauche, je préfère parler du camp progressiste qui est capable de leur donner un prolongement.
Pour l'instant, ce que vous appelez le camp progressiste, il n'y a qu'un seul candidat déclaré, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Oui, il semblerait que ils doivent...
Il y a une consultation au niveau du PC pour savoir si le PC doit rejoindre ou pas Mélenchon.
C'est en cours, ça relève du débat interne.
Mais vous, leader syndical, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui porterait plutôt bien vos idées, vos suggestions?
Ah, je saigne beaucoup moins souvent des oreilles quand je l'entends à lui que quand j'entends Juppé, Fillon ou Valls. Ouais.
Explicitons quand même le débat.
Mais il y en a d'autres, hein.
Tout à l'heure, vous avez parlé du Parti Socialiste. Peut-être que je ne sais pas vos mots, mais en tout cas, moi, je pose la question. Est-ce que ce parti, et en tout cas le gouvernement issu de la dernière élection présidentielle, n'a pas tenu ses promesses, a fait une politique qui n'est pas une politique progressiste, pour reprendre votre vocabulaire?
Ah, il a fait un peu mieux que pas respecter ses promesses. Je pense qu'il s'est inscrit dans la longue tradition social-démocrate européenne, où effectivement on fait croire qu'on veut aller batailler avec le capital, mais en réalité on sert ses intérêts. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est fait ces dernières années en Espagne, en Italie, en Grèce. À chaque fois, le point de départ, c'est les sociaux-démocrates au pouvoir. Ça prouve aussi.
Vous, Olivier Matteux, vous étiez tombé dans le panneau La finance, c'est mon ennemi.
Moi, personnellement,
du candidat
François
Hollande.
Vous y avez cru à cette promesse-là?
Non, moi j'ai confiance dans les travailleurs. J'ai confiance dans les travailleurs uniquement. Dans tous les cas, et de toute façon, l'histoire nous a prouvé que quel que soit le gouvernement en place, la seule chose qui conditionne la réalisation concrète ou pas des mesures annoncées, c'est le rapport de force que les travailleurs sont capables de créer et d'exercer. Ah, très clairement, partant de là, effectivement, il vaut mieux y aller avec un qui annonce qui souhaite faire du bon, plutôt qu'avec un qui dit clairement je vais tuer 500 000, non 250 000, après je me suis trompé, c'était 400, mais, voilà. Mais dans tous les cas, il y a de chèques en blanc pour personne.
C'est-à-dire que vous dites, on a besoin, le syndicalisme a besoin de relais politiques, le politique à sa place doit entendre le cahier revendicatif du monde syndical, mais... Jamais de chèque en blanc, mais de toute façon, attention.
C'est pas forcément directement le syndicalisme qui a besoin de relais politique. C'est le mouvement social, c'est le camp des travailleurs. Il faut effectivement tenir toutes les parties. Hein. Créer les conditions pour que les questions portées par... qui relèvent de l'intérêt des salariés soient entendues et prises en compte et faire en sorte que politiquement le soit réalisé. Qu'on le veuille ou non, malgré tous les discours, il n'y a rien qui oblige nos gouvernements à s'aligner sur les injonctions de l'Union européenne, du FMI, de la Banque centrale. Un État qui décide de faire du mieux, il peut faire du mieux. Puis s'il y avait une réelle volonté, un peu de courage chez Hollande ou Valls, il mettrait peut-être l'Europe au défi de déclarer la guerre à la France. Qui va nous attaquer, très honnêtement, en Europe, qui viendrait nous attaquer si on décidait de baisser le temps de travail à 32 heures, d'augmenter les salaires, tout ça en prenant l'argent qui est offert aujourd'hui au grand patronat en particulier et qui vient des richesses qui sont créées par les travailleurs. Hein.
110 millions de réduction d'impôts et de cotisations aux entreprises durant les 4 dernières années.
Ah.
Ça participe?
Ben, sûrement que ça y participe. Au plus on leur en laisse, au moins il y en a pour l'intérêt général.
Alors on a vu l'ancien ministre de l'économie de François Hollande venir démarrer sa campagne, quand il a déclaré, lui aussi, il est venu dans les Bouches-du-Rhône démarrer sa campagne pour la présidentielle.
De qui vous parlez?
Macron.
Du chauffeur de bus.
Macron, voilà, ni droite ni gauche, dit-il aujourd'hui. C'est l'avenir, les jeunes,
Macron, il est?
Les jeunes, il représente quoi pour Macron?
Macron, il représente quoi? L'heure, il finira au bout d'un hameçon. J'ai bien dit d'un hameçon, pas d'un crochet ni d'une pique.
Hein. Attention à ce que vous dites, hein, parce
qu'après... Oui, non, je sais bien, je suis pas menaçant, on n'a pas besoin, on est suffisamment nombreux pour que ce soit les idées qui gagnent par elles-mêmes. Mmh. Non, Macron, la réalité, c'est que... il est là, lui, pour brouiller encore un peu plus les pistes. Le danger pour le capital, c'est que le camp des travailleurs se constitue... de sorte à pouvoir mener le combat comme il faut. Et il est là, lui, pour faire croire à une frange de salariés, une frange de chômeurs, une frange de retraités, une frange de la classe moyenne, quoi. Ils n'ont aucun intérêt lié entre eux, et bien entendu, mais ils participent, comme le Front National et d'autres, au brouillage idéologique qui fait que... à ce jour, on est encore un peu trop éparpillé.
Alors, comme je disais, 65 ans, c'est l'âge de la retraite qui est prôné par les candidats républicains, qu'ils mettront en pratique s'ils gagnent les présidentielles. L'allègement des charges aux entreprises et beaucoup d'autres. Finalement, on parlait du cas Macron. Le gouvernement actuel a ouvert la brèche et la droite l'enfonce ou va l'enfoncer pour le prochain quinquennat.
Je veux refaire le parallèle avec ce qui s'est passé dans les autres pays européens, particulièrement de l'Europe du Sud. Effectivement, ils ouvrent, ils font sauter toutes les digues, et puis derrière, la vague libérale l'emporte, avec à chaque fois le camp nationaliste, le danger de la vague brune, et on nous met toujours dans ces conditions-là pour, au final, nous faire avaler les mesures les plus réactionnaires. C'est certain que si le gouvernement d'Hollande avait mené une politique réellement de gauche, ce serait beaucoup plus compliqué pour la droite, mais ça m'embête vraiment de les différencier. Ce serait beaucoup plus compliqué pour eux de revenir sur les acquis, sauf que là, ils ne reviennent pas sur des acquis, ils continuent à les détricoter. Il y a bien là une continuité entre les républicains et les futurs démocrates.
Dans ce panorama politique là, qu'on est en train de faire au début de cette émission, vous venez de parler de la vague brune. Alors, le Front National, qui se revendique premier parti ouvrier de France, alors bon, mais qui de toute façon, c'est vrai, touche une partie de l'électorat ouvrier. Il y a peut-être même probablement des adhérents cégétistes qui votent pour ce parti. Vous leur dites quoi ?
À qui ? Au Front National ou
à ses adhérents ?
Ah, à ses adhérents, bon.
C'est une hypothèse.
J'aime à penser qu'ils ne sont pas nombreux.
Vous l'avez quantifié, ça ? Vous avez fait une étude là-dessus ?
Non, c'est...
Parce que dans une région où le Front National arrive quand même largement en tête, on pense bien que ça atteint tous les secteurs, y compris le secteur syndical.
Oui, ben forcément, parmi ceux qui continuent à voter, hein, puisqu'il faut se rappeler aussi que la proportion malheureusement de ceux qui ne s'expriment plus par le vote est de plus en plus importante, forcément qu'il y a des syndicalistes et très certainement quelques-uns de la CGT. On a connu l'époque hein, où à gauche on expliquait mais non, on n'est pas en train de se faire vider et dans le même temps le Front National faisait que monter les voix, ils ont bien prises quelque part. Non, nous Ce qui est certain, c'est qu'on ne souhaite pas passer notre temps à parler du Front National.
Non, mais d'accord.
Sur ces thèmes.
Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'il y a certains individus, quelques individus, qui migrent vers le Front National ou est-ce qu'il y a une hémorragie ?
Non. Il y a ni. Nous n'avons aucun responsable de syndicat qui s'est revendiqué ou proche ou adhérent ou militant du Front National ou autre organisation.
Et des cartes non renouvelées ?
Non. Très sérieusement, ici on a...
Il y a eu ce cas de figure dans l'Est.
On a eu ce cas de figure dans l'Est. On a été... Ben oui, parce que pour nous, au-delà de nos valeurs internationalistes, de solidarité, il y a dans le programme du Front National un certain nombre de mesures qui sont pour la plupart en trompe-l'œil, mais qui impliquent... pour nous, enfin, qui nous amène d'abord qui sont très dangereuses. La préférence nationale, c'est un concept qui finira par nous mener à la guerre, mais qui, y compris, nous handicape, nous, dans la construction du rapport de force à l'entreprise, puisque à partir du moment où un salarié pourrait considérer que le salarié d'à côté, parce qu'il n'a pas les bonnes origines, ne devrait pas avoir les mêmes droits, de fait, il ne se rassemble pas pour les revendiquer ensemble. Donc de ce point de vue, le Front National, c'est un allié plus qu'objectif du capital. Après, qu'il soit du capital international, mondialisé ou local, nous ce qu'on combat, c'est l'exploitation, hein, pas son origine.
Michel ?
Oui, donc le Front National est un allié pour vous du capital, on peut le dire comme
ça. Très clairement.
Je crois que vous avez déjà déclaré que... dans l'histoire, il fallait se souvenir, c'est peut-être en ouverture du congrès qu'il y avait à Marseille, vous avez fait un discours, souvenir que dans l'histoire, le libéralisme avait parfois eu recours au fascisme pour, si nécessaire, si besoin. Et vous dites que ça peut se reproduire.
Pas le libéralisme, le capitalisme.
Le capitalisme.
Parce que nous combattons le capitalisme. Le libéralisme et bien entendu toutes ses formes. Et la forme la plus exacerbée, la plus dramatique, forcément, parce qu'il y a des conséquences humaines démultiplier, même si déjà aujourd'hui elles sont importantes, c'est le fascisme. Ça fait partie des étapes que le capitalisme se donne pour se reconstituer à des moments donnés dans l'histoire. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Sinon, effectivement, la masse des travailleurs, des salariés de ce pays risque de se faire emporter sur des faux sujets et au final de se désarmer face à leur patron.
Alors cet argument quand même qui porte, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'emploi, l'emploi est rare, Et donc, les migrants, les étrangers prennent l'emploi des Français. Allez, on n'est pas raciste peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas accueillir tous les migrants. Qu'est-ce qu'on répond à ça, avec ce dossier des migrants ?
La difficulté, c'est que les mêmes qui, depuis 30 ans, on fait en sorte que, par milliers, nos usines, nos entreprises ont été délocalisées dans des pays où les conditions sociales et environnementales sont beaucoup plus avantageuses pour les patrons. Ces mêmes-là, ce sont les mêmes qui déclarent des guerres de partout, qui créent les conditions de migration importantes et nombreuses. Enfin, après, c'est normal. Si demain, il pleut des bombes à Port-de-Bouc, je prendrai ma famille et je l'emmènerai un peu plus loin, hein, quoi qu'il arrive. Je ne regarderai pas le poste frontière ou pas. Je ferai en sorte de mettre ma famille à l'abri. Enfin, je pense que c'est un réflexe tout à fait normal. Après, il faut regarder aussi comment les choses sont prises. Il y a des tris qui sont faits parmi les migrants. On est capable de créer des conditions pour que ceux parmi eux les plus qualifiés, les employables de suite, ceux-là ils sont moins dérangeants. Parce que ceux-là, ils vont rapporter de suite au même patronat qui fabrique les bombes, qui vont bombarder leur maison là-bas chez eux. Donc il y a une espèce de vice sans fin là, qui nous écrase, hein, autant aux migrants qu'à nous. En sachant quand même que, de toute façon, la somme globale réunie des migrants, elle nous coûtera jamais aussi cher que les quelques milliers d'actionnaires qu'on a dans le pays, qui toutes les années se partagent plusieurs centaines de milliards d'euros de dividendes.
Autre problème qui a été dénoncé par le Front National, comme par ce que vous appelez, vous, le camp progressiste, c'est celui des travailleurs détachés, avec souvent un vocabulaire quasi similaire, hein. Je fais allusion à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Les travailleurs délocalisés, c'est quoi pour vous, un problème, ou sont des camarades en devenir qui viennent travailler ici?
Le détachement de salariés, c'est un problème. Ensuite, les salariés, nous, ce que nous disons, c'est un salarié, d'où qu'il vienne, quand il travaille en France, il doit avoir, il doit bénéficier du droit social français. C'est la seule chose qu'on dit. Après, si le Front National, y compris, manie des contenus, enfin, si demain, si vous recevez Marine Le Pen et qu'elle vous dit que l'eau est mouillée, vous n'allez pas dire que ce n'est pas vrai. Il y a des évidences. Aujourd'hui, l'utilisation du salariat détaché, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème pour eux, parce que c'est eux qui le vivent, et parce que ça vient, effectivement, impacter les chiffres du chômage en France. Mais au-delà, ça a des impacts sur la pérennité des entreprises, puisque derrière, ce sont des pans entiers de formation professionnelle qui sont abandonnés, puisqu'on va chercher ailleurs des qualifications qu'on ne fabrique plus ici.
Donc l'étranger n'est pas toujours bienvenu.
Mais c'est encore une fois, non, vous ne me ferez pas dire ça. En plus, je vous disais honnêtement, je suis le premier vrai Français de la famille, donc je serais vraiment malvenu de considérer que... Non, il n'y a aucun souci avec l'étranger. Il y a un souci avec les patrons. Parce que les patrons, ils n'ont pas de problème, hein, entre eux.
Pas de frontières pour les patrons.
Mais bien entendu, ni pour les frontières, ni pour les capitaux. Ils n'en voulaient plus non plus pour les travailleurs, mais pour mieux les exploiter. Regardez, Le travailleur détaché, c'est le pendant local des entreprises délocalisées. Tout ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils font venir ici la main-d'œuvre qui peuvent exploiter, surexploiter. Enfin, nous, la seule chose qu'on revendique, c'est qu'un salarié, quand il est en France, quelle que soit sa nationalité, il bénéficie des mêmes droits que tous les autres salariés. C'est la seule chose qu'on dit. Il n'y a aucun souci. Enfin, on n'ira jamais contre un travailleur. C'est impossible.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, avec nous aujourd'hui Olivier Matteux, patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. Patron, oui, c'est secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône. On parle du syndicat, des problèmes des syndicats. Le problème de taux de syndicalisation dans les entreprises, ça c'est souvent évoqué par les politiques de droite comme de gauche. C'est quoi? C'est un problème qui va aller crescendo, non? Il y a de moins en moins de syndiqués. Il n'y en a déjà pas beaucoup par rapport aux autres pays européens.
Mais qui dit qu'il y a de moins en moins de syndiqués? Moi, je dis qu'il n'y en a pas assez de syndiqués.
D'accord, mais concrètement.
Je ne dis pas qu'il y en a de moins en moins.
Là, vous êtes dans l'incantatoire, mais
pas du tout. Nous, concrètement, ça fait 6 ans qu'on progresse toutes les années. Alors, pas dans les proportions où il faudrait pour permettre aux travailleurs de s'organiser, de s'unir et de se défendre, y compris de reconquérir des droits. Mais il est faux de dire qu'il y a de moins en moins de syndiqués. C'est facile de l'envoyer comme ça, sans regarder les conditions réelles d'exercice du droit syndical dans les entreprises. La chasse aux sorcières, elle est réelle, c'est pas une invention. On pourra vous fournir la liste des cas en France de syndiqués, qu'ils soient militants, dirigeants, ou simples syndiqués, qui ont maille à partir, soit avec leur patron, soit avec la justice, à chaque fois pour des faits syndicaux. Donc c'est sûr que...
De fait, la CGT a moins d'adhérents que dans les années 50, enfin, si on prend un temps un peu plus long sur le plan historique. C'est pas la panacée, en tout cas. Vous êtes d'accord là-dessus?
Forcément. Encore une fois, après, il faut regarder... moi, je suis aussi pour qu'on prenne en compte le nombre d'entreprises qui ont fermé depuis ces années-là. On est passé d'entreprises avec parfois 3, 4, 5, 6 000, 7 000, 8 000 salariés à un éclatement complet du salariat, avec y compris des secteurs nouveaux qui renvoient carrément à l'individualisation du boulot, du travail.
On revient à Macron avec ses taxis Uber.
Mais bien sûr, l'ubérisation, la macronisation de la société, en tout cas de l'organisation du travail, elle a commencé bien avant Macron. C'est pour ça que je vous dis, Macron, il restera comme une bulle dans l'histoire.
Il y a une actualité qui nous ramène à ce sujet, c'est les élections dans les TPE, les très petites entreprises. Il y a un taux de syndicalisation qui est faible dans ces petites entreprises. C'est plus difficile d'organiser des salariés qui sont dans des petites structures que dans des grandes entreprises.
Forcément.
Comment on fait alors? Quelles sont, par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, il y a une stratégie pour y aller
La stratégie, c'est la même, c'est un peu plus fastidieux.
Peut-être juste pour les auditeurs, à combien est-ce que l'entreprise doit avoir un syndicat? À combien d'employés elle a l'obligation d'avoir un syndicat?
Il n'y a pas de seuil.
Il n'y a pas de seuil.
Deux salariés peuvent se syndiquer. Une entreprise avec deux salariés, les deux peuvent être syndiqués. On peut avoir une entreprise avec 2000 salariés et qui n'ait pas de syndicat. Il n'y a pas de seuil ici au niveau de l'organisation des élections. Au-delà de 11, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais non, sur la syndicalisation en elle-même, il n'y a pas de seuil.
Alors...
Comment aller vers les TPE?
C'est très simple. Pour le coup, un peu plus dans la période, ce qu'on a l'habitude de faire, on va au contact des salariés, soit sur leur lieu de travail, soit sur leur lieu de vie, mais en tout cas, on crée les conditions pour aller les rencontrer, échanger avec eux, y compris essayer d'entendre le plus possible ce dont ils ont besoin pour essayer de les défendre une fois que les élections seront passées le mieux possible. En même temps, on a besoin de les organiser aussi. Même si, bon...
Vous convenez tout de même que les problèmes d'une TPE, de telle ou telle TPE, sont des problèmes qui sont singuliers, spécifiques, etc. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes contre la décentralisation des négociations au niveau des entreprises? Pourquoi avoir une grosse structure générale qui va décider alors que...
On a un problème. Les discussions dans les entreprises, elles ont toujours eu lieu. Partout, le rapport de force, il a permis que les salariés imposent des discussions. Les règles qui sont en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les discussions, elles ne peuvent pas aboutir à des accords qui sont en dessous des conventions collectives. Le danger, il est là. Le problème, ce n'est pas de discuter dans les entreprises. Quel objectif de ces discussions, de ces négociations? Si c'est pour, à chaque fois, imposer des reculs aux salariés, il faut un minimum. Ce minimum, il est assuré par le code du travail, par la hiérarchie des normes, d'inverser tout ça. Il n'y a pas d'erreur de la part du patronat. Parce que cette loi, la loi travail, elle répond exclusivement aux envies de Gattaz, y compris on a eu l'occasion de discuter avec des artisans, des patrons de TPE qui nous disent, mais nous, c'est pas ça qui va nous changer la vie. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient du pouvoir d'achat et qu'ils puissent consommer, faire tourner les commerces de proximité, l'artisanat.
Michel?
Alors peut-être une question sur un aspect que les auditeurs sûrement n'ont pas forcément en tête, hein, c'est-à-dire que ces élections là, dans les très petites entreprises, les TPE, ont été repoussées. Elles auront lieu finalement du 30 décembre au 13 janvier. Et là, il y a un peu une bataille de déclarations entre l'État qui dit... à nouveau, c'est la faute à la CGT, je caricature à peine, puisqu'il y avait un recours auprès vis-à-vis d'un litige juridique autour d'un syndicat corse. Et la CGT et d'autres d'ailleurs disent non non mais on pouvait maintenir les élections aux dates. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce cafouillage, enfin, votre analyse de
ils sont vraiment forts, c'est
le choix des dates est quand même assez particulier.
Oui, mais j'aurais pu faire 24 et 25 décembre mais Ils ont une capacité à pas assumer leur incapacité ou leur difficulté qui est phénoménale. Il y a eu effectivement des recours portés par la CGT et pendant tout un temps avec la CGT, Force ouvrière, la CFDT, concernant les listes présentées par le syndicat des travailleurs corses, qui effectivement porte dans ses statuts la corsisation des emplois. Enfin, bon, après, je ne suis pas spécialiste du STC, c'est leur façon de voir et il revient aux salariés de faire le tri dans ceux qui souhaitent valoriser. Il y a eu une première décision de justice qui nous a donné raison à tous. Elle a été cassée par le cours d'appel, je crois. Et donc on est allé faire ce recours. Des raisons très simples. On ne peut pas accepter qu'un syndicat qui porte, qu'on le veuille ou non, clairement, des choix discriminants entre les travailleurs puisse se présenter à des élections de ce type. Sans ça, ça ouvrirait la porte à nouveau, hein, puisqu'on avait eu une expérience il y a quelques années au niveau des prud'hommes avec le Front National qui avait tenté de s'immiscer dans le débat syndical. Donc ce genre de choses, on ne peut pas les laisser passer. Sauf que les délais permettaient largement au gouvernement à la fois de trancher la question, puisque bon, après on est allé au bout du processus. On nous donnait raison, on nous donnait tort, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui imposait qu'on reporte les élections de TPE. Bon, s'il s'agissait là, pour le coup, pour eux, de rajouter un peu plus de troubles et de désorienter un peu plus les salariés... Je vois pas ce que ça va porter, puisque bon, nous, ça nous laisse un peu plus de temps pour mener campagne.
D'accord. Il y a un enjeu interne, mais pas que, peut-être, vous allez nous le dire, au résultat de ces élections, c'est-à-dire qu'on saura, après ce scrutin, qui est le premier syndicat de France. Enfin, alors, c'est la CGT, à ce jour. Peut-être que la CFDT pourrait passer devant la CGT selon les résultats. Quel est l'enjeu pour vous? Est-ce qu'il y en a un?
L'enjeu, pour ce qui me concerne, mais pas que moi, l'enjeu réel de ces élections, c'est faire en sorte que les salariés se donnent les moyens d'être le mieux défendus et représentés possible. Après, si on présente ça comme une course, effectivement, il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Bon.
Non, mais attendez, c'est plus qu'une course, parce que vous devenez l'interlocuteur naturel du gouvernement, quel qu'il soit, quand vous êtes premier syndicat.
Vous trouvez? Est-ce que non, là c'était le moment blagounette. Toute la période qu'on a connue là sur la loi travail, à ce jour, on est la première organisation syndicale du pays. On a été traité comme des chiens. On a été traité comme des chiens. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il était dans l'incapacité de répondre de ses actes et de ses décisions. Bon, voilà, je suis pas certain que le classement final il détermine la nature des rapports qu'on a à la fois avec les employeurs et avec le gouvernement. Ce qui est important, c'est que les travailleurs ils sachent se rassembler.
Ça m'amène à une autre question. Alors des fois, on entend dire des gens qui regrettent, mais si les syndicalistes étaient plus rassemblés, s'il y avait moins de divisions, peut-être qu'ils seraient plus forts et on les entendrait mieux. Et là, la CGT a un peu bougé. Alors, c'était du temps du mandat Thibault. On parlait de syndicalisme rassemblé. Le cap, c'était d'essayer d'avancer côte à côte, au mieux, le plus souvent possible, avec la CFDT, je crois. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt d'affirmer une position peut-être plus claire, plus revendicative, quitte à ne pas à laisser derrière certaines organisations qui ne veulent pas suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, se rassembler pour être plus fort ou affirmer une parole peut-être plus radicale, quitte à ne pas fédérer toutes les organisations?
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de radicalité ou pas. Après, ça, c'est les termes que les observateurs qualifiés, dans les milieux autorisés, collent sur les choses. Nous, la question de l'unité syndicale, des rapports unitaires, pour ce qui est des Bouches-du-Rhône, on a déterminé de manière très simple. Notre objectif à nous, c'est d'unir les travailleurs. Partant de là, on considère que nous sommes, nous, un des outils à disposition des salariés pour créer les convergences et les mises en commun. On n'est pas les seuls, il y a d'autres organisations syndicales, il y a d'autres composantes du mouvement social, politique, associative. Nous, on n'a aucune exclusive, on souhaite travailler avec tout le monde. Mais on souhaite travailler avec tout le monde avec quand même quelques conditions. D'abord, c'est de ne pas obliger l'autre à dire ce qu'il ne veut pas dire pour pouvoir parler ensemble. Ensuite, c'est que chacun soit à tout moment libre des contenus et des faits qu'il souhaite porter, mettre en œuvre. Ça ne peut pas être un piège, ça ne peut pas être une prison ou un carcan
l'unité syndicale. Quand on vous écoute parler comme ça, ça relève plus quand même qu'une question d'ego que de fond. Quand vous avez un problème, par exemple un sujet comme la suppression d'autorisation administrative de licenciement, voilà un sujet fort, ça pourrait être une ligne rouge sur laquelle tous les syndicats
mais nous
sont d'accord.
Non. Clairement, on va dire non. On va dire non. La CFDT dit il faut regarder. Bon. Et on va dire quoi ? Non, mais il faut regarder. Pour le coup, on n'arrivera pas à parler avec la CFDT. Par contre, on va aller expliquer aux salariés, voilà le danger qui pèse sur nous avec une telle mesure. Ah, mettons-nous en branle et allons avec tous ceux qui souhaitent, tous ceux qui le souhaitent, combattre cette mesure. On ne va pas dire... Ça ne pourra pas être autre chose que non. Non, mais on est en capacité de proposer des choses aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'unité syndicale, elle ne peut pas, elle seule, déterminer la nature des contenus qu'on porte. C'est l'intérêt des travailleurs qui doit primer.
Alors, revenons au mot, vous dites radicalité, c'est peut-être pas le bon mot. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure dans le portrait un peu satirique au départ, certains commentateurs très autorisés, Le Monde, etc., le journal de référence, sérieux, ont dit, ben voilà, Olivier Matteux, c'est un des visages d'une radicalité à la CGT, les mots extrême-gauche, etc. Vous parlez de syndicalisme de lutte de classe, c'est un vocabulaire qui est le vôtre, et qu'est-ce que ça veut dire, ou pas, la radicalité, est-ce que c'est quelque chose de positif dans des luttes, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter tout ça?
Je parlais de syndicalisme de lutte de classe et de masse, parce qu'être de classe, avoir raison tout seul, ça ne sert à pas grand-chose. Sachant que, on va faire deux secondes de... Mais la masse, c'est... Enfin, la classe, c'est la masse conscientisée. Donc, partant de là, notre volonté, c'est de s'en sortir avec tout le monde. Pas de permettre à quelques-uns de devenir une élite éclairée et qui s'éclairerait toute seule. Oui, on revendique, nous, clairement, et moi avec, des conceptions de classe qui ont trait, ben, forcément, la lutte de classe qu'il nous faut mener, puisqu'on l'a bien vu dans la dernière période, on le voit encore, il y a un véritable affrontement de classe entre ceux qui possèdent et qui exploitent, et ceux qui sont exploités et qui créent les richesses. Ça, de vouloir le nier pour paraître moderne, modéré, adouci, light, nous, on n'est pas des yaourts 0%.
La CGT a un peu hésité, parce qu'à un moment, cette notion de lutte de classe a été enlevée de certains textes fondateurs.
Ces questions-là, elles nous traversent depuis 120 ans. Il y a des moments où il faut aussi être stratégique, ne pas porter des discours qui paraissent être venir de la stratosphère et qui sont inaudibles pour les salariés. On doit coller aux réalités, mais on doit coller aux réalités aussi pour les transformer. Donc, partant de là, l'objectif, il est bien... Enfin, je ne sais pas si c'est le jour et le lieu pour aller jusque-là, mais oui, on milite pour un changement de société, une société sans classe, débarrassée de l'exploitation capitaliste. Si c'est ça qui permet d'éclairer tout le monde, oui. Après, on est bien conscient qu'on a à travailler, à construire, avec les travailleurs tels qu'ils sont aujourd'hui, avec d'autres organisations telles qu'elles sont. Encore une fois, on n'impose rien. C'est pour ça qu'y compris l'unité syndicale, nous, on la voit vraiment au travers de l'unité des travailleurs, parce que c'est eux qui déterminent le niveau de la lutte et le niveau des objectifs à atteindre.
Est-ce que votre grille d'analyse, c'est toujours celle du marxisme, en fait, ou ça peut être dit comme ça, ou ça, ce vocabulaire-là, il est hors usage pour vous ?
Moi, j'ai aucun souci à appliquer quelques règles de calcul marxiste pour comprendre la situation.
Mais est-ce qu'il est audible vis-à-vis des travailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les gens ne sont pas sensibles, sont de moins en moins sensibles, en tout cas, au marxisme. Le Parti communiste est quasiment en voie de disparition. Le camp progressiste,
liste que vous appelez de vos voeux tout à l'heure est éparpillée, pas très très bien représentée. Est-ce que le travailleur d'aujourd'hui, à l'heure où il y a une désindustrialisation énorme, est-ce qu'il est sensible à votre vocabulaire ? On vous a laissé tout à l'heure parler, vous avez clairement utilisé un vocabulaire d'une autre époque, quoi, on va dire. Est-ce qu'il est susceptible de comprendre son problème à travers votre vocabulaire et votre grille de lecture ?
Je pense que les travailleurs, à partir du moment où on se penche sur les problèmes qui les concernent et qu'on travaille avec eux à construire des propositions, ils sont capables très rapidement et de comprendre et d'entendre à la fois avec tous les arguments et les mécanismes qui mènent aux solutions qu'on peut mettre en œuvre. Après, on cherche à savoir si c'est du marxisme, pas du marxisme, si c'est d'époque ou pas d'époque. Quand on se retrouve, nous, face à une fermeture d'entreprise comme une raffinerie, un chantier naval, et qu'on bâtit des propositions pour trouver des alternatives à la fermeture, et qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, parfois. Dans tous les cas, on construit avec eux, on construit sur des bases claires, qui sont le point de départ, si on ne peut pas laisser la décision seule aux actionnaires de casser l'outil ou pas l'outil. Alors, est-ce que ça, c'est complètement marxiste ou pas au départ ? Est-ce qu'on est dans, à un moment donné, la compromission, l'arrangement ? En tout cas, la revendication immédiate, c'est ne pas perdre son emploi. Et on travaille à ça. Avec un objectif très clair, c'est qu'à un moment donné, on ne soit plus confronté à ce genre de situation par la volonté seule d'actionnaires qui n'ont en réalité rien à faire de la pérennité des outils et des emplois qui vont avec. Voilà. Après, il nous faut... Oui, moi, je pense qu'on est... Non seulement on n'est pas dépassé, mais on est bien malheureusement dans notre époque et dans l'obligation, mais en ayant cet objectif en tête de transformation de la société, bien dans la réponse aux besoins concrets des travailleurs. Encore faut-il qu'on puisse travailler avec eux. Quoi.
Vous l'avez dit lors je le rappelle, hein, le dernier congrès de la CGT nationale a eu lieu à Marseille, hein, c'était en avril dernier, et c'était pas arrivé depuis très longtemps, hein, 1908, il m'a semblé dire, je ne sais pas si c'est exact, et vous avez dit dans le discours introductif, le capitalisme n'a pas changé.
On est quand même passé d'un capitalisme bien à un capitalisme d'actionnaire. Il a changé un peu.
Dans son objectif, non. On est bien toujours sur le même principe où il y a à un moment donné un trait qui nous sépare avec d'un côté ceux qui possèdent et qui exploitent, je me répète, et ceux qui sont exploités et qui créent des richesses. On peut tourner virer, bien entendu, qui sait... y compris là-dessus, adapter son discours, rendre inéluctable ses solutions, mais ses fondements n'ont pas changé.
Alors, on le disait aussi, mais il y a des industries, dans les Bouches-du-Rhône en particulier, et il y a beaucoup de syndiqués CGT dans ces industries, qui sont quand même très menacées. Donc, il y a des batailles menées parfois avec succès pour freiner, voire s'opposer à certaines fermetures. Mais on sent quand même un mouvement puissant qui menace en fait cet appareil industriel dans le département. Vous pensez être en capacité, malgré tout, et malgré cette donne politique dont on a parlé en début d'émission, de freiner ça et d'éviter la casse en fait de l'appareil productif ? Et pourquoi il faut conserver l'industrie dans ce département, selon vous ?
Il y a plusieurs questions.
Il y en a au moins trois, là. Ah.
Est-ce qu'on est convaincu qu'on peut influer sur le sens des choses ? Oui. Sans ça, on ferait autre chose. Moi, mon métier, je le redis, c'est forestier sapeur, c'est pas syndicaliste. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut sauver nos industries ? Encore une fois, oui. Encore une fois, oui. D'abord parce que, encore aujourd'hui et depuis très longtemps, elles répondent à des besoins concrets. Elles sont créatrices de richesses. Quoi qu'en disent... leurs propriétaires, puisqu'en général, quand il y a une industrie qui est fermée, on va rester dans le département, hein, oui. C'est que souvent elle est reconstruite plus loin, encore une fois, dans des endroits où les normes sociales, environnementales le permettent aux propriétaires de dégager encore plus de bénéfices. Partant de là, il y a un argument aussi sur lequel ça mériterait qu'on puisse prendre... un peu plus de temps. Tout le monde nous rabat les oreilles avec la transition écologique, la transition industrielle, en partant d'un a priori qui est complètement fondé, c'est que la CGT serait arc-boutée sur l'industrie traditionnelle, incapable d'imaginer ce que pourrait être des activités de demain.
On n'a pas fait preuve d'ouverture à Alteo, quand même.
On n'a pas fait preuve d'ouverture à Alteo. C'est vous qui le dites, ça.
Vous seriez prêt
Moi, je me souviens d'un débat, d'un moment de la bataille pour l'obtention de l'unité biomasse à Gardanne, où nous avons proposé, nous, la CGT, de rencontrer l'ensemble des organisations écologistes qui exprimaient pour certaines des craintes, pour d'autres qui n'avaient qu'un seul objectif, c'était empêcher l'implantation de l'unité. On leur a proposé de les rencontrer, et y compris d'envisager toutes les formes d'action qui nous, auraient pu nous être communes pour obtenir un maximum de garanties sur les questions environnementales, mais y compris en leur faisant entendre aussi que ça peut être soit l'usine propre parfaite ou le chômage. Parce que si y compris on veut arriver à des modes de production absolument propres, et c'est là où j'aime bien, il nous faut prendre aussi la main sur un certain nombre d'outils. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des bénéfices générés, ils partent dans les poches des actionnaires. La recherche et le développement dans le pays, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est catastrophique. On est à je ne sais pas combien de points de moins qu'en Allemagne. Si demain la volonté c'était de produire réellement propre et tout en répondant aux besoins des populations, il y aurait moyen de le faire. Mais en attendant qu'on ait trouvé, il faut bien que l'argent qui est dégagé aujourd'hui par ces industries, il serve à financer ces recherches. Et qui continue, par la même occasion, à payer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, la police, les pompiers et les salariés qui vivent. Parce que ce qu'il faut que les gens aient en tête, c'est que quand ils arrêtent une activité ici, c'est pas parce que le marché est tari et que... Quand le groupe Unilever dit j'arrête de faire du thé à Gémenos et qui ferme Fralib, c'est pas, il n'y a pas d'annonce qui dit j'arrête de vendre du thé et des infusions en France. C'est je vais les fabriquer en Pologne en payant des gars de 150 euros par mois, et je fais revenir mes produits en France pour les vendre aux consommateurs de France. Ils ne renoncent pas au marché. Ils veulent simplement les fabriquer plus loin pour mieux se gaver. Enfin, voilà, faut qu'on soit clair.
Alors là, pour le coup, à Scopti, en plus, ils ont fait des productions localisées de meilleure qualité, avec compris une gamme de produits bio. Mmh. C'est la coopérative.
La preuve que c'est possible.
C'est possible. Alors, mais par contre, si on reprend le dossier Alteo, avec les rejets, les fameux rejets dans les eaux du parc national des Calanques de Bourrouge, alors c'est plus des boues puisque ce sont maintenant des rejets liquides. Et là, il y a des inquiétudes, il y a des expertises qui disent qu'il y a un souci. C'est le parc national, c'est un bien commun aussi naturel des Calanques. Que dit la CGT? La CGT dit ben, il faut préserver l'outil industriel. Tant pis, faisons des recherches pour améliorer. C'est difficile là, comme dossier.
Bien entendu que c'est difficile parce que le point de départ en permanence, c'est l'opposition entre ceux qui vivent de leur travail, en l'occurrence là les salariés d'Alteo et les sous-traitants. Et on pourrait aller au dernier emploi induit par l'activité d'Alteo, aux populations riveraines. Je pense que c'est l'angle le plus injuste, parce qu'au final, ceux qui sont d'emblée exonérés, c'est les propriétaires successifs de la boîte et les gouvernements qui à la fois décident des normes et des modes de production. Encore une fois, il faut aller la regarder, cette usine, hein, et vérifier qu'il y a besoin d'investissement sur l'outil, très certainement oui, d'investir sur la recherche, même si... Et ça a été reconnu, même j'ai pas le dossier complètement en tête, mais il y a eu des améliorations apportées. Ils font qu'on n'est pas tout à fait dans la situation de l'époque où les boues étaient rejetées.
On vous sent quand même un peu mal à l'aise sur ce
mais
dossier.
Mais c'est pas une question de mal à l'aise ou pas, c'est que c'est sur la nature du combat à mener. Et j'ai vraiment du mal, mais alors là pour le coup ça m'est assez personnel, j'ai vraiment du mal avec... ceux qui se réclament du mouvement écologiste, même si je vous le dis, moi comme beaucoup d'autres, je partage leur inquiétude parce qu'ils partent aussi de réalité. J'ai vraiment du mal avec la façon dont ils ont de prendre les choses. On ne peut pas arriver et dire bon, on ferme, tant pis pour ceux qui vivent là de leur boulot et l'affaire est réglée. C'est pas possible. Il y a d'autres usines du même type qui opèrent autour de la Méditerranée.
Rappelons que c'est des composants, des portables, hein, des téléphones portables que tout le monde utilise, hein, que fabrique.
Mais bien entendu, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'outils de production qui produit des biens complètement inutiles. Il y a forcément une utilisation au bout qui justifie, au moins qui a justifié, l'implantation de l'outil à l'endroit. Voilà. Moi, c'est sur la façon qu'on a de prendre les choses. Et encore une fois, ça ne peut pas être à chaque fois au détriment de l'emploi.
Ce genre de dilemme, vous allez aussi le rencontrer sur la fermeture des centrales nucléaires. Il y en a quelques-unes dans la région.
Très certainement. Dans le département, on n'en a pas. Dans le département, on n'en a pas.
Tricastin, pas très loin. Enfin, on n'est pas dans les Bouches-du-Rhône.
Mais là aussi.
Aux frontières du Vaucluse.
On nous a expliqué un temps qu'on pouvait, on pouvait difficilement envisager d'implanter de nos. De nouvelles activités, parce qu'on était en sous-capacité de production énergétique. Donc on va continuer à fermer des outils de production. On est là encore une fois, c'est la vie sans fin, là. Ça continue. On a besoin d'outils de production électrique pour y compris faire en sorte que... Ça, il faut que les gens ils aient en tête. Au-delà de la question du nucléaire ou pas, au moins on a d'outils de production électrique, au plus on raréfie le produit... Et au plus, il va finir par coûter cher.
Et partant de là, on peut aussi le diversifier. Hein. C'est pour le cas des centrales nucléaires, on remplace avec de l'éolienne, du marin,
Très clairement, pour ce qui concerne l'énergie, la CGT est très claire. On est pour un mix énergétique. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est travaillé. Et on n'a aucune visibilité concrète sur les intentions du gouvernement et de l'Europe, hein, puisque le marché était... Le marché était ouvert.
Michel,
je voulais vous faire réagir à une actualité, dépôt de bilan pour la Marseillaise. Vous parliez tout à l'heure du pluralisme de la presse, de la nécessité d'une presse plurielle. Un mot là-dessus, une inquiétude pour ce journal?
On est forcément inquiet de l'avenir du journal. Il y a lundi, je crois, la première audience au tribunal de commerce qui doit décider de la mise en redressement ou de la liquidation. Si on avait le pouvoir de Myriam El Khomri ou de Manuel Valls, on aurait certainement dit à l'oreille du juge du tribunal du commerce, de commerce, mets le journal en redressement et allons chercher ensemble les moyens pour le pérenniser.
On arrive presque au terme, on arrive même au terme de cette émission, Olivier Matteux. Dernière question, le travail change, le syndicalisme va changer. Aujourd'hui, on en est à des contrats de 1 mois, 6 mois maximum. C'est rare, les CDD d'un an. Le syndicalisme sera forcément différent. Ce que vous faites aujourd'hui ne sera plus valable demain, de la manière en tout cas dont vous le faites.
Oui, mais encore une fois, on essaie de s'adapter et de prendre en compte les intérêts de malheureusement, toutes les catégories de salariés, je veux dire, parce que malheureusement, on les a tellement saucissonnés, sectorisés que... On a effectivement plusieurs situations à prendre en compte, mais on va continuer à faire notre boulot. Et il y a des professions émergentes qui se nourrissent uniquement de contrats précaires. Et quels moyens on peut mettre pour à la fois organiser ces salariés-là et faire valoir leurs droits avec eux.
Dans ce contexte difficile, il y a des mobilisations. Samedi 26, une journée de mobilisation à Marseille.
Oui, nous appelons demain à une nouvelle journée de mobilisation départementale. Toujours dans le cadre de notre processus départemental avec les organisations progressistes, hein, politiques, syndicales et associatives. Voilà, nous, on entend continuer le combat et il n'y a pas de raison qu'on lâche. Voilà, nous, on est persuadés, on est convaincus qu'il y a les moyens dans ce pays pour faire autrement et faire du mieux.
Olivier Matteux, je vous remercie. Allez, je vous dis au mois prochain avec un tout autre invité, un tout autre sujet. Bye.